Bonsoir et bienvenue au Champ Libre pour cette nouvelle édition au Jardin d'hiver. Nous sommes très heureux d'accueillir Marie Charelle, dont le dernier roman, La fille de Lake Placide, je ne me trompe pas, vient tout juste de paraître. Un très bon roman que je vous conseille vivement. Pour ce rendez-vous, Marie Charelle va nous présenter ses coups de cœur, les livres qui l'ont marqué dans sa vie. Vous retrouverez bien sûr tous ces documents à la bibliothèque des Champs Libres et juste derrière moi, en vente avec la librairie du Forum. Je vous souhaite un agréable moment et je laisse la parole à Marie Charelle. Merci.
Merci. Et bonsoir, je suis ravie d'être là avec vous et de parler des livres d'autres auteurs. C'est plus simple, même pour finalement. Et ça a été évidemment très difficile de faire une sélection parce que la liste de livres qu'on aime peut être sans fin. Alors j'ai essayé de choisir des ouvrages différents, certains sortis il y a longtemps, d'autres plus récents, d'autres que j'ai lus il y a longtemps. Donc peut-être il y a des choses dans ma mémoire qui sont un peu moins précises, d'autres plus récents. Et finalement de vous inviter aussi à voyager avec ces livres comme ils m'ont fait voyager. Alors la question c'est par lequel commencer ? Plouf, plouf, plouf. On va peut-être commencer par Richard Powers. Cet ouvrage qui s'appelle L'Arbre Monde, qui résonne encore beaucoup en moi, qui m'a beaucoup inspirée pour l'écriture de mon précédent roman qui s'appelle Les Mangeurs de Nuit. Parce que c'est arrivé un moment où j'avais envie d'écrire sur les forêts. Et donc j'ai lu tout ce qui parlait de forêts, de grands espaces américains, de nature writing américain, de Jack London, etc. Et puis je vois ce livre, tiens, L'Arbre Monde, une couverture avec des arbres comme ça. Et donc il réussit un exploit dans ce livre, c'est qu'il parle des arbres et il construit un récit un peu comme on construirait un arbre, avec des racines qui montent, qui forment un tronc et qui fleurissent en haut et forment la frondaison. Il y a de mémoire... Ah, c'est 9 personnages principaux. Donc déjà, c'est quand même... c'est pas rien de construire un récit avec 9 personnages principaux, parce qu'on commence un personnage, puis on a un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis on se dit, oh là là, mais en fait, à un moment, je vais décrocher. Il y a un moment, au début, je décrochais, et puis j'y suis retournée. Et à chaque fois, il nous parle d'une histoire différente avec un arbre. J'en ai certainement oublié certains. Il y en a un, c'est des personnes d'origine chinoise dont les parents ont ramené des fils pour les arbres à soie, les mûriers, voilà, la petite graine de mûrier plantée dans le jardin américain qui pousse. Il y en a d'autres, c'est le rapport, c'est le grand-père qui, dans la ferme, à chaque naissance, plantait un arbre. Donc il y a toutes ces histoires d'arbres qui convergent. Donc c'est à la fois une ode à la nature, une histoire comme on les aime dans la littérature américaine, où on voyage, on va un peu en Chine, on va un peu en Californie. Il y a un moment où ça devient un peu mystique. Enfin, on a les séquoias géants, la destruction. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et ce livre m'a scotché. C'était un moment où j'étais vraiment en transe et de lectrice et d'autrice parce que j'étais transportée et je me disais, on peut faire ça. On peut écrire des livres comme ça. C'est incroyable. C'est très inspirant de se dire, évidemment, il faut le talent de Richard Powers. Mais voilà. Je vois que derrière, Margaret Atwood a dit de lui, si Richard Powers était un auteur du 19e siècle, il serait Herman Melville et il écrirait Moby Dick. Il y a un peu de ça, c'est ces livres-univers qui résonnent longtemps en soi. Donc ce livre voilà, m'habite encore très fort. J'ai déjà lu 2 fois, ça fait partie des livres qu'on laisse reposer quelques années puis qu'on relit. Comme ça, il y a 100 ans de solitude aussi que je relis régulièrement parce que c'est tellement riche qu'on oublie et on retrouve avec plaisir tous les tous le même nom de famille dans 100 ans de solitude, donc on s'y perd un peu, mais on s'y retrouve. Et là, il y a un peu ça, les Buendia, Aureliano. Il y a de ça, donc je sais que je le relirai. Il est dans, j'ai la version poche, j'ai le grand format. Et en plus, un jour, il est venu au journal, il nous a fait des dédicaces, donc j'ai un petit papier. Voilà, on est fan aussi. Je pourrais en parler des heures, rien que de celui-là. On peut rester dans les forêts avec ce merveilleux ouvrage plein de poésie. Il pleuvait des oiseaux, rien que le titre est magnifique. Il y a eu un film, je crois, que je ne suis pas allée voir parce qu'on a toujours peur d'être déçu quand on voit les films tirés d'un livre. Et c'est une Canadienne québécoise, Jocelyne québécoise, qui nous parle de trois vieux, on peut le dire, ils sont octogénaires, qui vivent qui se planquent dans les forêts parce que ils n'ont pas envie d'être en maison de retraite, ils ont envie d'être peinards. Ces trois, on les imagine bien, genre, je vous emmerde, et je vais vivre dans mes forêts. Donc ils sont tous les trois comme ça, assez bourrus, assez drôles. Et un jour, il y a une photographe qui débarque, qui est obsédée par une histoire de grand feu qu'il y a eu dans cette région où il y aurait un jeune homme. Alors je l'ai lu il y a longtemps, donc peut-être je vais déformer l'histoire, mais telle qu'elle est dans mon esprit, un jeune homme qui a survécu de ces grands feux. Et donc elle documente ça, elle fait des photos, et donc elle va voir ces trois vieux qui la reçoivent comme on l'imagine. Qu'est-ce que c'est que cette photographe qui vient nous, et se noue une histoire d'amitié entre eux. Ils s'apprivoisent, j'aime beaucoup les histoires d'amitié improbables, et ils se rencontrent. Il y a des personnages complètement poétiques qui traversent ce livre. Il y a un jeune garçon qui, est-ce que c'est sa grand-mère ? Je crois que c'est sa grand-mère, qui est en maison de retraite et qui se dit « mais je ne peux pas la laisser là ». Et qui donc il apprend, il se sauve avec elle et il l'amène dans cette forêt où il y a ces trois vieux. Et puis elle est très poétique, on ne sait pas trop si elle a toute sa tête ou pas, elle a des cheveux vaporeux comme ça, et il tombe un peu amoureux d'elle, et donc ils sont là. Donc c'est des espèces de, à la fois de marginaux, en même temps on a envie d'être avec eux dans ces forêts, on s'imagine qu'à un moment ça va peut-être pas très bien se finir. Ça se finit pas si mal, pas pour tous, en tout cas pour eux ça va. Voilà, et puis il y a ces histoires de grands feux qui traversent le livre. J'en garde un moment, un souvenir merveilleux de poésie, de douceur, de grands espaces là aussi, très très poétique. Vraiment un bouquin qui fait du bien d'homme libre, de solitaire, de un peu bourru. Voilà, je pense que j'ai dû lire ça. Je crois que c'est un ami québécois qui m'avait dit tiens lis ça, et que j'ai lu après, peut-être c'était un moment des confinements, enfin en tout cas j'ai souvenir d'avoir eu des bouffées de voyage avec ce livre, et qui m'a aussi certainement un peu inspirée dans Les Mangeurs de Nuit, qui se passe aussi dans les forêts où c'est des marginaux, voilà, il y a certainement un peu de ce livre dans mon livre aussi, dans tous ceux qui ont pu m'inspirer, et j'admire vraiment la façon dont elle l'a construit avec ces allers-retours dans le passé, cette douceur, cette poésie, cette étrangeté avec ces personnages voilà, très attachants. Ah oui, je relis, il y a une histoire de marijuana, c'est vrai aussi. Les vieux font pousser de la marijuana et donc elle ne veut pas trop qu'on vienne les embêter, ils ont aussi peur de ça. Voilà, c'est vraiment plein de poésie, surprenant. Lisez le livre, n'allez pas voir le film, je pense qu'il est beaucoup plus... Je sais pas si. Il pleuvait des oiseaux, ce qui est aussi un très beau titre et fait référence à un moment de l'incendie où il y a des oiseaux qui tombent du ciel. Donc c'est traversé d'images poésie comme ça et de cette photographe qui documente ces êtres particuliers. Donc voilà, ils sont là. Vraiment, c'est un livre qui fait du bien sans forcément parler de choses faciles, qui est aussi quelque chose d'admirable quand on a un livre qui est comme un qui met du baume au cœur, qui est comme un pansement, qui met de la beauté, sans être un feel good, entre guillemets, comme on dit, ces bouquins où tout va bien. Là, tout ne va pas bien, mais quand même, on est bien avec les personnages. C'est difficile, en tant qu'auteur aussi, de faire ça. Donc, moi, j'admire, je me dis, j'aimerais bien réussir à faire ça dans mes livres aussi. Donc, c'est vrai que quand on est auteur, on a un peu toujours cette double casquette. On lit le livre en tant que lecteur, et puis des fois, on se dit, mais comment fait-elle ? Et ça, pour tout vous dévoiler des secrets d'auteur aussi, il y a des moments où parfois, quand il y a des bouquins que j'admire, comme celui-là, lui, je l'ai pris, et il est assez court, je crois qu'il y a 13 ou 14 chapitres, je les ai pris, j'ai découpé les livres pour voir comment elle a fait. Un chapitre, tel personnage, après des groupes, juste pour voir comment elle a construit son livre. Pas pour copier, parce qu'on ne copie jamais, mais c'est aussi pour apprendre, parce qu'on peut aller à l'école apprendre à écrire des livres, et ça n'existe pas vraiment en France, aux États-Unis, oui. Ben, moi, mon école, c'est ça. Des fois, je me dis, tiens, comment est-ce qu'elle a fait ? C'est une, une histoire qui n'est pas si simple, une construction qui est très simple. Moi, j'ai des constructions hyper compliquées qui vont dans toutes les époques, qui s'entremêlent. Donc, je vous l'ai dit, comment elle a fait. Donc, ce livre-là, je l'ai découpé. J'ai encore les petits cartons dedans pour voir comment elle avait construit son plan. Et alors, dans un autre registre tout aussi magique, tout aussi poétique. Et finalement, j'ai choisi ces livres un peu au hasard et je m'aperçois qu'il y a des correspondances. Je ne sais pas si vous connaissez cette autrice, Audur Ava Olafsdottir. Vous avez certainement lu certains de ses livres. Si vous l'aimez, vous l'aimerez forcément, celui-là, parce qu'on retrouve tout ce qui fait la magie de cette autrice qui parle finalement d'histoires parfois assez banales ou du quotidien, et qui arrive à mettre de la magie dans le quotidien de ses personnages. Là aussi, en tant qu'autrice, des fois, je me dis, mais comment fait-elle pour parfois, il ne se passe pas grand-chose dans ses livres, dans Rosa Candida, pareil, de mémoire, vous me dites, si je me trompe, c'est une femme qui prend sa voiture, ou c'est l'autre, je ne sais plus, bref. Celui où c'est une femme qui prend sa voiture et qui traverse le... C'est pas Rosa Candida, c'est celui d'après. Les livres se mélangent dans mon esprit de cette autrice, l'embellie. Il ne se passe pas grand-chose dans l'embellie. Et pourtant, il se passe plein de choses et c'est d'une poésie folle. Et donc là, c'est encore cette poésie. C'est l'histoire d'une femme qui est traductrice, qui est dans les langues. Donc il y a aussi plein de réflexions sur la langue, sur les mots, l'essence des mots en islandais, dans d'autres langues. Et puis, qui a cette anxiété écologique qu'on a tous. En tout cas beaucoup d'entre nous, parce qu'on a peur de voir nos forêts disparaître. Alors en Islande, les forêts ont disparu il y a très longtemps à cause des moutons. Enfin, d'abord parce que le bois a été coupé pour chauffer, pour construire, et puis après le problème des moutons, c'est que ça broute et ça mange les pousses d'arbres, et donc c'est difficile de faire pousser des forêts en Islande, d'en faire repousser, et en plus le climat est un peu compliqué. Et elle se met en tête de planter une forêt. Donc elle, elle regarde quelles essences peuvent résister aux moutons, donc elle met un peu des murs et tout. Et elle construit, elle plante sa forêt avec son idée, ben voilà, je vais planter ma forêt. Avec un côté à la fois vain et absurde, et en même temps poétique et beau. Et elle fait des rencontres des gens dans cet endroit un petit peu en dehors de Reykjavik. Donc il y a aussi la fille de la ville qui va dans un endroit plus petit, plus rurale, où elle arrive en tant que la traductrice. Donc tout le monde sait ce qu'elle fait. Et en même temps, il n'y a pas d'animosité, il y a beaucoup de curiosité. Voilà, c'est un bouquin qui, comme tous les bouquins d'Audur Ava Olafsdottir, font du bien. Et comme Il pleuvait des oiseaux, ça ne parle pas forcément de choses faciles, parce que dans les personnages qu'elle rencontre, il y a un jeune migrant qui se retrouvent dans ce village-là, parce qu'on les a posés là pour essayer de peupler un peu. Et elle se prend en affection pour lui, il est traumatisé, il a peur de la mer, parce qu'on imagine qu'il a vécu des choses traversées, douloureuses, et ils se prennent d'affection l'un pour l'autre, et ça devient un peu son fils. Et voilà, donc j'ai presque les larmes aux yeux qui me viennent quand j'en parle. C'est fou, c'est le pouvoir des livres, je sais pas pourquoi. Là, j'ai envie de pleurer quand je parle d'elle, mais de beauté, parce que voilà, c'est fort, c'est beau, ça fait du bien, c'est drôle, c'est étrange, cette autrice, c'est vraiment c'est magnifique. Voilà, je pourrais là aussi en parler pendant des heures. Et en plus, elle est traduite par Eric Bourri, qui est le traducteur de beaucoup de bouquins islandais, qui est très intéressant à écouter. Eric Bourri, il en parle de temps en temps, et c'est bien de parler des traducteurs aussi. C'est difficile, très difficile de traduire l'islandais parce que c'est une langue compliquée. C'est la traduction un exercice difficile en soi, mais c'est une langue qui, si on prend un exemple autre qu'elle, je fais un peu une digression, pardon. Quand on lit les sagas islandaises, certaines traductions sont très plates parce que ça peut être une langue, je dis ça avec mes mots, plate, factuelle. Et la poésie est dans les lettres, dans la prononciation. Et donc, traduire cette poésie-là, si on fait du mot à mot, ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a une partie des sagas islandaises qui ont été traduites, qui peuvent être... On les lit, on se dit, où est la poésie, où est la magie. Mais en fait, c'est un problème de traduction. Et donc, il y a une série d'auteurs, notamment parfois des Islandais francophones, qui retraduisent en essayant de mettre la poésie non pas par la traduction mot à mot, mais par d'autres biais. Donc écoutez, les traducteurs d'islandais, c'est assez magique. Et c'est d'autant plus intéressant qu'elle, elle est parfaitement francophone. Elle parle très bien français, mais c'est quand même Éric Bourri qui traduit ses livres. Donc ils doivent beaucoup discuter. Et en plus, c'est un livre où le personnage principal est traductrice. Donc voilà, ce bouquin, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'était un moment où, ça vous arrivez aussi, où tout me tombait des mains. Moment où on n'arrive plus à lire, on a une pile énorme de livres, on commence un truc et... Voilà, ça m'embête, j'ai pas envie de ça, je suis pas d'humeur. On a des phases comme ça, moi aussi ça m'arrive, j'arrive plus. Ou alors je lis que des choses pour mes recherches, pour mes livres, et donc tout le reste me tombe des mains. Et elle, bah, c'est elle qui m'a remis dans une envie de lecture et qui m'a vraiment fait du bien à un moment où tout me tombait des mains. Donc maintenant, je suis repartie dans une frénésie de lecture. Elle a relancé ça. Et voilà, je l'aime énormément. C'est une très, très belle autrice. En Fumaine Disgraceau, je suis en train d'écrire une chronique sur Arnaldur Indridason, autre auteur islandais de Polar, où celui qui sort aujourd'hui, Les Parias, c'est à peu près à l'opposé, parce que là, on est vraiment du côté de l'ombre, on est du côté de la face cachée de l'Islande. Il n'y a pas beaucoup de poésie, c'est très très dur. Lui, c'est l'inverse, et elle creuse la lumière. Lui, il creuse l'ombre de tout ce qui ne va pas en Islande. Et là, dans Les Parias, je me disais, c'est presque trop, c'est presque, je veux montrer le visage sale de mon pays. Tous les pays ont un visage sale, mais là, c'est on va dans le passé, les réseaux pédophiles, tout. Donc, si vous voulez de la lumière, il faut plutôt lire Audur Avalafzutir. Tac. Si on suit le fil rouge de la lumière, qu'on voit d'ailleurs dans la couverture de ce petit livre sorti je ne sais pas quand, il y a probablement plusieurs années, que j'ai découvert, ça devait être dans l'émission La Source sur France Inter, c'était Cécile Coulon qui faisait ça à un moment où elle invitait des écrivains qui parlaient de leur coup de cœur. Et donc quand des auteurs parlent de leur coup de cœur, parfois on va en acheter les yeux fermés parce qu'on se dit si ce bouquin l'a marqué. Et je ne sais plus quelle autrice c'était, peut-être c'était Gaëlle Dohan ou Gaëlle, je ne sais plus, peu importe. 94, très bien. Et elle parlait de ce petit livre comme d'un livre qui l'avait beaucoup marqué et ça m'a donné envie de le lire et j'ai compris pourquoi. Je crois que ça se lit très très vite. La Grosse, Françoise Lefebvre. Ouais, il y a des points communs, c'est marrant, avec Audur Avalafzutir, il n'y a pas de hasard. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Céline, elle est garde-barrière. Donc elle est garde-barrière dans un endroit rural. Elle est grosse, elle est belle. On imagine une peinture comme ça de belle femme, mais grosse. Et donc, certains la traitent de grosse. Hein. Il y a toujours des imbéciles pour s'arrêter au physique. Elle est extrêmement intelligente, très cultivée. Elle lit beaucoup. Ce job lui va bien parce que finalement, elle doit juste lever la barrière de temps en temps et puis le reste du temps, elle lit. Elle est amie avec un vieux voisin avec qui elle partage son amour des livres et puis un petit verre de Bordeaux de temps en temps. Il est malade, il n'est pas très en forme. Elle n'est pas très bien vue parce qu'une femme seule, d'un certain âge, garde-barrière, bon, elle est un peu étrange, quoi. Et puis, elle garde un peu des enfants qui s'attachent à elle, mais les parents, c'est un peu ambigu. C'est pareil, il ne se passe pas grand-chose dans ce bouquin. Et on est pris par la lumière de cette femme, de cette amitié qu'elle a avec ce voisin, de leur petite soirée, tous les deux, ils se font des bons petits plats... dans leur maison, ils prennent soin de l'autre. Là aussi, c'est une histoire d'amitié qui plaît beaucoup parce qu'il est beaucoup plus vieux qu'elle. C'est pas une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire d'amitié. Ils s'aiment, c'est des amis, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais ils s'aiment comme on aimerait être aimé par quelqu'un qui partage le même amour des livres et des vins. Quoi. On a envie d'être avec eux. C'est très tendre. En même temps, on sent les fragilités de cette femme. On imagine bien ce qu'elle se prend dans la figure. Donc il y a un côté dur aussi. Et puis en même temps, on est bien avec eux dans leur, dans leur soirée, comme ça, tous les deux. Voilà, c'est une petite merveille, ce livre de femme qui dérange aussi parce qu'elle correspond pas au cliché que certains aimeraient. Elle correspond pas au cliché de la femme grosse et bête dans sa maison. Non, elle est grosse seule, mais elle est intelligente, cultivée. Elle dérange pour plein de raisons. Et voilà, c'est donc un livre très court, mais écrit avec énormément de justesse, de délicatesse, de tendresse, avec juste ce qu'il faut de douleur, de blessure, qu'on devine, beaucoup de subtilité. Là aussi, c'est très très fort de réussir à faire ça, d'être subtil quand on parle de sujets comme ça. Voilà, il y a un petit peu de cruauté, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour qu'on soit qu'on ait envie de pleurer, là aussi. Les bouquins qui donnent envie de pleurer, mais par leur beauté, leur justesse. Je trouve que c'est très, 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 très fort de faire ça. Et donc, c'est bien qu'il soit maintenant dans vos rayons, même s'il est sorti depuis 1994. Je crois qu'elle a eu le concours. Je sais absolument rien de cette autrice, à part ce bouquin. J'ai rien lu d'autre d'elle, mais c'est aussi la magie de quand on entend parler de coup de cœur. Donc si vous le lisez à votre tour, j'en serais ravie. Et merci à, je ne sais plus si c'était Gaël Josse, Gaël Nohant. En tout cas, c'était une émission comme ça. Josse, vous avez entendu, écouté cette émission aussi? Ouais, oui, vous l'avez lu? C'est très bien. Chez Babel en plus, une belle collection. Donc... Et alors, un autre bouquin qui est sorti, lui, il n'y a pas très longtemps. Que j'ai découvert par une libraire. Vous savez, quand des libraires que vous aimez mettent un coup de cœur, et donc vous ne réfléchissez pas. Vous vous dites, si elle a aimé, c'est que ça va me plaire. Et vous y allez les yeux fermés. C'est assez magique quand on a trouvé un libraire comme ça, ou une libraire qui... on sait que ce qu'elle aime ou ce qu'il aime, c'est ce qu'on aime aussi, et donc on y va les yeux fermés, ça tombe toujours juste. C'est un trésor quand on trouve quelqu'un comme ça. Et là, c'est une librairie qui s'appelle l'Attrape-Cœur à Paris, et elle fait pas beaucoup de coups de cœur comme ça de temps en temps. Et là, il y avait ce coup de cœur sur ce livre qui s'appelle Ni loup ni chien. J'étais encore dans Les Mangeurs de nuit, qui se passe en partie au Canada, avec des mythes autochtones. Donc j'étais un peu aussi dans ces lectures-là, dans ces réflexions. Et donc ça m'a parlé. Ça aurait pu me parler pour plein d'autres raisons. Donc Ni loup ni chien de Kent Nerburn, pardon pour la prononciation. Et c'est donc son histoire à lui. Ce qu'il écrit sur les Amérindiens. Il a écrit beaucoup de livres sur les Amérindiens. Et un jour, il y a des Amérindiens, je cherche la tribu, les Lakota, qu'il contacte et qui lui disent, voilà, il faut rencontrer... Là aussi, l'histoire est un peu confuse dans mon esprit parce que c'est plus des ambiances et des moments de dialogue qui me reviennent. Il faut rencontrer ce vieil Indien pour écrire sur lui. Il veut écrire sa vie. Il veut que ce soit vous. Donc il y va. Il a déjà écrit un peu, donc il est un peu auréolé par... j'ai su écrire sur les Amérindiens, il n'est pas Amérindien. Donc en même temps, il ne se sent pas très légitime. Et puis en même temps, ce vieil homme veut le voir. Donc il se dit, il a dû voir que j'ai compris quelque chose... modestement, avec toute cette question de comment écrire sur les Amérindiens quand on ne l'est pas, et comment trouver les justes mots. Et puis, donc il va voir ce vieil homme. Et puis, évidemment, c'est difficile au début parce qu'il n'est pas forcément bien reçu. L'autre se fout un peu de sa gueule. Et puis, il y a ses copains autour qui sont un peu bourrus. Et donc, il arrive en se disant, moi, je sais écrire, j'ai compris quelque chose de là, ma mère indienne, blablabla. Et puis, en fait, il se prend dans le mur. En fait, non, t'as rien compris. Mais quand même, le vieil Indien veut l'amener à lui et veut que ce soit lui. Donc, il écrit des premières choses, ça va pas. Et puis, ils partent en road trip en bagnole, comme ça. Il y a lui et il y a un autre copain. C'est extrêmement drôle parce qu'il y a ce côté où il le malmène. Ils se foutent de lui, enfin, ils lui disent de ses clichés sur les Amérindiens, de tous les clichés qu'ont les Américains sur ce peuple, l'incompréhension, tous les non-dits, toute la douleur, tout le, Oui, les clichés aussi traversent des endroits ou des réserves, donc des villes amérindiennes où on peut s'arrêter au premier abord et rien comprendre. Et en fait, on comprend rien dans ce livre parce que nous-mêmes, on est empreints de notre idée sur la sagesse antique, blablabla. Donc lui, il le malmène sur ça et en même temps, il lui parle, il lui parle, il lui parle. Donc il écrit, il essaye de capter les choses et puis il n'y arrive pas et puis il s'attache à eux et puis voilà, là aussi, c'est assez incroyable de faire un livre sur un road trip comme ça où c'est il y a beaucoup de choses qui passent par les non-dits aussi, par tout ce qui n'est pas dit dans les dialogues et comment est-ce qu'on capte la différence et en même temps c'est drôle, enfin tous ces moments où voilà, il joue sur les clichés de qu'il a sur les Indiens et comment réussir à écrire sur eux. C'est vraiment un bouquin magnifique avec des moments d'envolée mystique où parfois il lui parle d'une scène, enfin d'une scène, non, d'un moment historique où il y a eu un massacre à un endroit. Il l'emmène dans cet endroit-là où il y a vaguement un mémorial et ça remonte, mais il arrive dans le livre à montrer comment ça remonte. Tous les fantômes arrivent dans le livre à un moment où on rigole un peu parce que voilà, les vieux, il y a un dans l'autre. Paf, on se prend ça en pleine figure. Lui prend ça en tant qu'écrivain en pleine figure. Les fantômes sont vraiment là et on sent et il y a toute la douleur qui remonte. Et lui arrive à capter ça. L'Indien arrive à lui transmettre tout en lui disant, de toute façon, tu ne peux pas comprendre, mais quand même, tu vas écrire l'histoire. Donc c'est vraiment plein d'ambivalence, d'humour, de liens. Il y a plein de personnages secondaires absolument savoureux. Et puis c'est un road trip aussi entre trois hommes avec des moments dans les où ils vont dans les bars un peu d'Amérique profonde. Alors il y a le type avec les deux Indiens et tout ce qu'on peut imaginer aussi qui passe dans les regards. C'est qui c'est là qu'est-ce qu'il fait avec ces Indiens je crois qu'à un moment aussi, c'est ça, il y a sa voiture qui marche plus et donc ils le mettent au garage. Et donc il y a, pendant tout le bouquin, il est angoissé parce que c'est sa belle voiture, je ne sais plus quelle marque, japonaise, je crois. Il se dit, mais l'autre, il va me bousiller ma bagnole, je vais la retrouver dans quelle. Donc il est un peu obsédé quand même par sa voiture et les autres se disent, mais qu'est-ce que tu. Ta voiture, là, dans le matériel, t'as rien compris à la vie. Mais quand même, il tient beaucoup à sa voiture. Et donc et à la fin, il retrouve sa voiture. Enfin, voilà, il y a énormément d'humour. C'est difficile d'en parler parce que là aussi, ça me revient par flash. C'est tendre, c'est dur, c'est extrêmement émouvant. Voilà, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, puisque c'est Erika de l'Attrape-cœur qui le dit. Je ne fais que transmettre ses coups de cœur. Et après, pour l'anecdote, j'ai acheté les autres bouquins de Kent Naburn, qui a écrit donc sur la culture amérindienne. Bah, ils sont pas, c'est pas pareil. Ils sont moins forts. Peut-être parce que j'ai commencé par celui-là où ils se dépassent et les autres sont c'est des bons livres, mais bah, pour le coup, eux, ils sont tombés des mains, quoi. Ça marche moins bien, c'est moins incarné, c'est moins habité. Peut-être ce qu'ils disent, c'est moins. Là, vraiment, celui-là, on est traversé par leur rencontre, par l'affection qui naît entre ces personnages. Entre la petite fille qui vient le chercher pour lui dire mon grand-père veut vous parler et puis en même temps le grand-père il n'est pas commode quoi et puis il y a tout oui il y a beaucoup de subtilité, il y a la place des femmes aussi ce qui reste de leur culture, enfin voilà, il y a énormément de choses et puis la couverture est belle, je connais pas du tout cette maison d'édition, les éditions du Sonneur, peut-être ça vous parle, voilà un petit chef-d'œuvre de voyage aussi c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup en France à part avec la grosse. Et j'avais mentionné aussi un livre de poésie. Vous devez sûrement connaître François Cheng, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Pas si longtemps. Je ne sais plus quelle émission. Voilà, c'est très intéressant ce que je vous raconte. On voyait ce vieux monsieur chinois qui parlait de. C'était un moment où il parlait du rapport entre la beauté et le mal et qui racontait un souvenir d'enfance un endroit en Chine, je ne sais plus où il y avait un peu de tourisme étranger, donc il voyait des Américaines, des Occidentales en maillot de bain et puis juste après, il y avait eu des massacres de femmes violé. Et donc, il dit dans son enfance, dans ses souvenirs d'enfance, ce clash entre le corps de la beauté des femmes occidentales et puis derrière d'autres... Tout se mélange dans son esprit et dans sa profondeur de François Cheng où la beauté, l'horreur, tout est mêlé et extrêmement poétique. Et ce bouquin de quatrains, de haïku peut-être, peu importe comment on dit, il y a ça aussi. C'est difficile de parler de poésie parce que c'est très intime, ce qui fait qu'un poème nous touche ou pas. On ne sait pas trop pourquoi. Je pense que ça dépend des périodes de sa vie aussi. Moi, j'aime pas trop la poésie classique avec des rimes. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'artificiel, de scolaire. Là aussi, ça me parle pas. Mais la poésie de François Cheng, c'est... Alors, pourtant, il y a des rimes. Mais ce bouquin-là, il y a des... y en a que j'ai noté. Je crois qu'il y en a même dans Les Mangeurs de Nuit en citation. Je me perds, je sais plus ce que je fais, mais... Mémoire courte. Mais là aussi, il y a des choses qui m'ont émue aux larmes dans comment, avec quatre vers, on arrive à mettre l'expérience d'une vie, un rapport au monde. Il y a des choses très... très... comment dire, je vous en lis un, là, je tombe dessus. Arbre solitaire, ombre solitaire, corps de nomades réunis, battant le cœur du désert... On est loin, on est dans la beauté, dans la poésie. Et puis, il y a des moments, je ne sais plus, à la fin, où il parle de SDF, je ne sais plus, de sans domicile fixe. Donc là, on revient dans le réel. Et en même temps, c'est quand même des quatrains, des haïkus. Je l'ai beaucoup offert, ce livre, en me disant, mais c'est un livre qui m'a parlé à moi, qui m'a bouleversé moi. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont reçu qui se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là de vieux chinois qui écrit des poèmes ?» Je pense que c'est des personnes que ça ne touche pas du tout. Survivre sans répit au désir, porter la soif plus loin que l'oasis. Voilà, il y a des choses sublimes, il y en a d'autres qui ne parlent pas, mais ce bouquin, j'y revais souvent. Il y a certains bouquins de poésie comme ça. Il y a d'autres bouquins de lui qui sont plus, pas forcément... où il parle beaucoup plus, où ce sont des essais, mais là, dans les haïkus, voilà, moi, ça me touche beaucoup. J'essaye de retrouver, évidemment, ce que j'aimerais citer, mais... voilà, c'est ça se picore un peu, de toute façon, les poèmes comme ça, mais lui, je crois que je l'ai lu d'une traite, avec une espèce de soif de... qui est à la fois une soif de lectrice et d'autrice qui est de trouver le quatrain qui va être le quatrain du moment. Et il y en a un qui a fini dans Les Mangeurs de Nuit, j'en suis à peu près sûre, en extrait. Voilà, la poésie, moi, ça me transporte. Pourtant, j'ai pas une culture classique, j'ai pas été dans une famille qui lisait de la poésie, donc c'est arrivé tard par des... je ne sais pas vraiment ce qui m'a accroché à un moment, mais à un moment, ça a accroché, quoi. Et je crois que la poésie peut faire du bien à des moments où les romans, ça ne marche pas, quoi. On ne sait pas pourquoi, ça touche, ça guérit quelque chose, ça fait du bien au moment où on ne peut plus lire de romans. Moi, ça me fait vraiment cet effet-là. Certains poèmes, on ne sait pas pourquoi. C'est un peu magique. Et on peut débattre sans fin sur à quoi ça sert la poésie, ça ne sert à rien... on peut, dans ce cas-là, on peut aussi dire que tout ne sert à rien à part ce qu'on a dans l'assiette, mais je crois vraiment que la poésie peut faire du bien. Voilà, surtout en ce moment. Donc, François Cheng, ça peut être d'autres poètes, et puis on a une chance incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de poésie qui est republiée aujourd'hui, de poésie contemporaine. L'Iconopop, une maison d'édition qui publie plein de choses assez joyeuses en poésie, donc ça fait du bien. Cécile Coulon, ça doit vous parler aussi, poète d'aujourd'hui. Elle aussi, sa poésie ne rime pas forcément et elle nous transporte très très loin. Voilà, est-ce que vous avez lu ces livres, ça vous parle ou...
Je viens juste de lire le dernier Cécile Coulon, que j'aime
beaucoup. Là, j'ai beaucoup dans le roman et dans la poésie.
Voilà, exactement.
Ouais. C'est réjouissant d'avoir une autrice comme ça qui fait et de la poésie et des romans poétiques, qui a une maîtrise de la langue qui peut nous emmener très très loin. Et elle est d'ailleurs une des éditrices de l'Iconopop, donc vraiment une chouette maison d'édition, quoi. Alors, la poésie vivante avec plein de couleurs, ça fait du bien.
Merci beaucoup. Merci à vous tous.
Les livres sont là.
Voilà, les livres sont là et je vous dis à très bientôt à la Bibliothèque des Champs Libres. Merci.
Merci.